Alors ce matin, on va démarrer une série de prédications sur ce qu'on a l'habitude de nommer dans l'Église les dons spirituels. Voilà, c'est ce qu'on a souhaité penser. On voudrait relancer du moins les groupes de ministère, et on voudrait le faire avec un enseignement solide sur cette question. On voudrait que chaque frère, chaque sœur dans l'Église puisse participer à la vie communautaire par les dons que le Seigneur lui a confiés. Et donc on va avoir un enseignement, ça va durer plusieurs semaines, vous allez voir, avec des travaux pratiques, ça va être sympa. Et puis j'espère que chacun, chacune sera encouragé, et que chacun, chacune puisse aussi comprendre les enjeux qui sont liés à cette question. Alors, les dons spirituels, c'est une question un petit peu délicate. Vous savez que c'est une question qui a secoué l'Église, parfois même qui l'a déchirée au cours des siècles et du passé. C'est un thème, une question qui a semé la division entre des chrétiens sincères et sérieux dans leur désir de connaître et de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors si on est tout à fait honnête avec soi-même, on doit reconnaître que l'interprétation des textes qui traitent de ce sujet sont liées à nos présupposés. Il faut reconnaître que nos choix, nos interprétations découlent le plus souvent des opinions et de l'enseignement que nous avons reçu dans le milieu ecclésial dans lequel nous avons grandi ou dans lequel nous avons nous sommes nés à la foi et nous avons été enseignés. Je vous propose donc, pour vous comme pour moi, que, alors qu'on aborde ce thème, il nous faudra chacun et chacune garder un esprit d'humilité et de respect pour l'opinion des autres, et de rejeter tout dogmatisme, toute intolérance, toute rigidité, toute arrogance. Dans l'histoire de l'Église, en réaction aux opinions opposées, chacun a campé dans des positions de plus en plus extrêmes et de plus en plus rigides. Je ne sais pas si au milieu de nous, je suis attendu au tournant sur cette question. Alors sur nos bancs, enfin nos sièges, se côtoient des frères, des sœurs qui sont parfois d'arrière-plan différents. Des frères. Enfin, c'est en principe, on est dans une église de frères. Les sœurs, vous êtes les bienvenues, hein. Il y a des frères et sœurs d'arrière-plan pentecôtistes, des frères et sœurs d'arrière-plan darbistes, des frères et sœurs d'arrière-plan autres, peut-être réformés, évangéliques ou indépendants, ou voilà, toutes sortes. Alors, je dois dire qu'au milieu de nous, je n'ai jamais ressenti de tension autour de cette question des dons spirituels. Mais certainement, il y a des différences entre nous. Alors j'espère, par cette étude, ne pas réussir le tour de force de me mettre tout le monde à dos. Au départ, il faudrait bien poser les bases. Et je voulais passer assez rapidement sur cette question, sur ces textes, en me disant que, vous savez, ils sont tellement connus, ils ont tellement été commentés, que probablement je ne pourrais rien apporter de neuf par ces prédications. Mais quand même, on doit remarquer que dans l'épître aux Corinthiens, Paul prend le temps de développer son enseignement et ça prend 3 chapitres dans nos Bibles. Que dans l'épître aux Corinthiens. Et ça montre à quel point c'était important pour Paul. Alors, j'ai relevé une remarque d'un commentateur de l'Écriture qui s'appelle Hoffman et qui dit de ces textes, je cite, « Ils sont souvent cités, ils sont jamais étudiés ». C'est un peu radical, mais bon, c'est vrai que c'est bien de les étudier. Par ailleurs, la première phrase du chapitre 12 m'ont convaincu d'adopter pour ce thème une approche plus détaillée. Alors lisons ensemble au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, page 236, les trois premiers versets de ces trois chapitres. Paul dit ici, j'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Une manifestation spirituelle à la gloire de Dieu, c'est un sujet important. Si important qu'il existe des manifestations spirituelles falsifiées et des manifestations spirituelles authentiques. Ces manifestations spirituelles sont importantes. Les dons spirituels. Alors, le texte ne commence pas avec les dons spirituels. Et les traducteurs ont été un petit peu embêtés, hein, parce que Paul dit pas du tout ça, il dit en ce qui concerne les spirituels. Alors les spirituels quoi? Alors les traductions disent les choses spirituelles, les pratiques spirituelles concernant ce qui est spirituel, concernant les manifestations de l'esprit, les réalités spirituelles, les phénomènes spirituels. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les traductions. Et concernant ces choses, frères, sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Si on lit le début de l'épître aux Corinthiens, on se rend compte que ces Corinthiens, dans cette église, ils se prenaient pour des sages. La culture ambiante, sans doute. Tout le monde sait que la sagesse grecque est supérieure à toute autre sagesse. Est-ce qu'elle n'est pas encore vantée de nos jours ? Il y a quoi à vous donner des complexes de supériorité si vous êtes grec, hein? Au début de l'épître, Paul, il est contraint de remettre les pendules à l'heure. Corinthiens 1, 17 à 2, 16. La sagesse de ce monde ne peut en aucun cas se comparer à la sagesse de Dieu. La sagesse du monde est frappée de folie. Alors que la parole de la croix, considérée comme une folie par le monde, est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ah, ils étaient tellement fiers d'eux-mêmes, les Corinthiens, qu'ils ont même cru qu'ils étaient déjà arrivés. Et Paul leur dit au chapitre 4, verset 8, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, déjà sans nous, vous avez commencé à régner. » Et il leur dit ça en tant que reproche, hein. « Revenez sur terre !» Revenez à la réalité. Alors, et c'est pas étonnant, hein, quand le début de l'épître, il leur rappelle qu'ils sont des frères, pour ajouter tout de suite après, ben vous êtes des ignorants. En fait, en lisant le début de l'épître, on a l'impression que Paul s'apprête à leur passer un savon. On pourrait paraphraser ainsi. Vous prétendez savoir. Mais le mauvais usage que vous faites de ce que vous savez démontre que vous ignorez. Et c'est bien ce que va démontrer le développement des chapitres 12 à 14 de l'Épître. C'est vrai à un tel point qu'une version plus ancienne, hein, de Semeur traduit ce début de chapitre de la manière suivante. J'en viens au problème des manifestations de l'Esprit. Mais comment la manifestation de l'Esprit peut-elle devenir un problème. J'aimerais, frère, que vous soyez au clair là-dessus. Alors, il semblerait que dans cette épître, Paul répondre à un certain nombre de questions que se posent les Corinthiens. Ils ont visiblement, ils lui ont écrit une lettre, ils ont dit, bon voilà Paul, on a quand même un certain nombre de questions à te poser. Et au début du chapitre 7, il leur dit, ben voilà, maintenant j'en arrive au problème que vous me posez. Et il commence, les unes après les autres, au chapitre 12, il arrive au problème ou à la question des manifestations de l'Esprit. Parce que les manifestations de l'Esprit étaient bel et bien devenues un problème dans l'église de Corinthe. Combien de fois est-ce que vous avez entendu des prédications ou des enseignements au sujet des dons spirituels? Combien de livres ont été écrits? Combien en avez-vous lu concernant ce sujet? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous ignoriez? Est-ce que ce sujet pose un problème? Pardon? Oui? Alors voici la réponse de la parole pour l'église de Petite Sainte. Je ne peux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Paul veut que Corinthe n'ait ni ignorance, ni doute, ni incertitude sur la nature et l'utilisation de leurs dons spirituels. Dieu veut que son église, l'église de Petite Sainte, n'ait ni ignorance, ni doute, ni incertitude concernant ce sujet capital. Et cette ignorance, ben, elle peut se révéler de deux manières. Par les excès qui peuvent en arriver à ridiculiser le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'expérience? Vous vous êtes senti mal à l'aise? Vous vous êtes dit, mais ça, ça ne participe pas à l'honneur du Seigneur. Au début de ma carrière professionnelle, je travaillais dans un garage à Mulhouse. Et tout près du garage, dans ce quartier, il y avait une église. Alors, j'étais très fier de parler de cette église à mes collègues de travail. Mais voilà ce qu'ils m'ont répondu. Mais on pousse des hurlements là-dedans. Mais ils sont complètement fous. Ils entendaient les hurlements qui poussaient dans l'église, d'après eux, sans même y entrer, rien qu'en passant à côté. C'était un ancien supermarché, probablement l'isolation phonique n'était pas terrible. Vous savez que le témoignage, là, comment il faisait l'autre? Café, hein. Mais l'ignorance, elle peut aussi se traduire par la négligence, le refus de ces dons, qui est une forme de mépris contre le Seigneur. Vous voyez ce que Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, 19 et suivant, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Et ce qu'il faut noter dans ce passage, c'est que si on méprise l'action du Saint-Esprit, ça a pour effet de l'éteindre. Autrement dit, il cesse de se manifester. Alors dans l'Église, on rencontre actuellement deux positions opposées concernant les dons spirituels. Soit on en fait le centre de gravité de toute la vie chrétienne, soit on les considère avec une certaine suspicion, hein, comme si les dons spirituels étaient le domaine d'exercice des mauvais esprits. C'est pourquoi 1 Corinthiens 4, 6 nous avertit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, mais on ne doit pas non plus rester en deçà. La faute est aussi grave. Et pourquoi c'est grave? Parce que tous les dons sont faits à l'Église dans le but de transformer le peuple de Dieu à l'image de Christ, son Seigneur. C'est pour ça que Dieu fait des dons à son Église. Alors voici une définition des dons spirituels. Je l'emprunte à John MacArthur. Et il dit, les dons spirituels sont des capacités pour faire le ministère, des caractéristiques de Jésus-Christ qui se manifestent par le corps spirituel de Christ, l'Église, comme ils se sont manifestés par son corps incarné. Je répète parce que c'est pas facile à retenir, hein. Il faut le relire trois fois avant de. Les dons spirituels sont des capacités pour faire le ministère. Ce sont des caractéristiques de Jésus-Christ qui se manifestent par le corps spirituel de Christ qui est l'Église. Donc, les caractéristiques de Jésus qui se manifestent dans l'Église, comme ils se sont manifestés par son corps incarné. Quand Jésus était sur terre, il a accompli un certain nombre de choses. Il a montré un certain nombre de qualités et de dons. Eh bien, il continue à le faire, mais plus en personne, mais au travers de son Église. C'est le rôle des dons spirituels. Et vous savez, j'ai pris... ça peut vous paraître être audacieux comme définition. C'est pourquoi j'ai choisi cet auteur qui est un auteur plutôt conservateur. À la lueur de cette définition, nous comprenons qu'il est grave de déformer ou de mépriser ces dons, car finalement, c'est porter atteinte à Jésus-Christ en personne. Alors, il existe un spirituel falsifié. C'est ce que Paul relève au deuxième verset. Et la ville de Corinthe, elle était particulière dans ce domaine. Elle était remplie de prêtres et de prêtresses, de prostituées religieux et religieuses, parce que oui, il y avait les deux, hein, de diseurs de bonne aventure, de devins, de religieux en mystère, qui représentaient toutes représentaient un dieu ou une déesse. Et ils possédaient des pouvoirs surnaturels pour le prouver. Alors, les païens aveuglés, ils étaient emportés avec toute la procession, comme par un tourbillon fatal, vers le temple de Jupiter. Un autre jour, c'était vers les autels de Mars ou de Vénus, et à chaque fois, pour les livrer à l'une de leurs passions divinisées. Justin, un historien romain du 3e ou 4e siècle, écrivait à leur sujet qu'ils étaient pourchassés par le fouet des démons méchants. L'extase était considéré comme une communion surnaturelle et sensuelle avec la divinité. Et le mot technique du mot entraîné, c'est le sens technique, pardon, du mot entraîné dans les cultes à mystère. L'initié, enfin celui qui participait, il était saisi, il était psychologiquement violé. Autrement dit, il ne se maîtrisait plus lui-même, hein. Il était maîtrisé par les esprits qui prenait possession de lui, les forces démoniaques. Il n'était plus conscient, lorsqu'il prononçait des paroles inintelligibles, que le prêtre ou la pitié, hein, qui était si célèbre à Athènes, du temple, interprétait. Chrysostome, un père de l'Église du 4e siècle, voyait dans ce verset 2 une allusion au culte de Dionysos, qui était caractérisé par des orgies sexuelles. Et ces extases sexuelles sont communes dans toutes les religions antiques, mais à Corinthe, elles vont si loin que dans tout l'Empire, on dit « corinthianisé » pour décrire une immoralité sexuelle extrême. L'extase était souvent accompagnée d'une autre expérience religieuse, liée à la mentie, à la divination, aux rêves révélateurs, aux visions, et le mot grec qui décrit cela a donné en français le mot enthousiasme. C'est dans ce contexte particulièrement défavorable qu'évoluaient les chrétiens de Corinthe. Paul le rappelle, vous savez bien que quand vous étiez encore païens, vous vous conduisiez de la même manière. Et je discutais avec quelqu'un hier, hein, on était du côté de Douai, là, pour une petite formation, je discutais avec quelqu'un qui me parlait de Dunkerque et de son carnaval. Et je lui dis, pendant 3 jours, ça ressemble à ça. Quand je vois ce qu'ils ont appris à mes enfants, la maternelle, concernant le carnaval, là, se fléchir devant, enfin, tout ce qui suit derrière, je me dis, mais voilà, on est dans quelque chose qui ressemble à ça. Le contraste avec le Saint-Esprit est frappant. Paul affirme au chapitre 14, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Alors Frédéric Godet écrivait en 1892, La date est importante parce que c'est très très longtemps, enfin très très, c'est longtemps avant les disputes actuelles. Il dit l'erreur principale des Corinthiens paraît avoir été de se figurer que plus l'homme était ravi à lui-même et jeté dans un état d'inconscience extatique, bon, il ne comprend pas ce qui se passe, par l'action de l'esprit, plus cette action était sublime et le rapprochait de Dieu. Alors, ce genre de choses n'a encore pas perdu de son attrait. Il y a certains mouvements encore dans le monde évangélique au sens large du terme, hein, qui se laissent aller à ce piège de la surenchère des manifestations spirituelles. Dans notre société, on voit que les gens sont aussi de plus en plus attirés par tout ce qui est de cette, comment dirais-je, de cette puissance spirituelle. Hein. Je regardais cette semaine des infos, et dans le journal télé, il parlait du regain d'intérêt de nos ados pour l'horoscope. Et on voyait des jeunes ados là, qui étaient penchés sur leur horoscope, et qui, la mère en riait, et puis les filles, elles prenaient ça très 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 au sérieux. Et on voit combien les spiritualités de toutes sortes fleurissent, refleurissent. Hein. Des choses qui, nous paraissent parfois surprenantes, ridicules, mais il y a une telle attirance pour l'extraordinaire. Alors, quand j'étais au Bénin, hein, les gars me racontaient que dans le village, ils voyaient parfois, en tout cas ceux qui étaient au service de ces puissances démoniaques, ils étaient capables de faire voler leur bâton à travers le village. Ils voyaient le bâton voler à travers le village, sifflant et clignotant. Et pas tant, n'est-ce pas? Ils voyaient des boules de feu se déplacer dans le sommet des arbres. Mais Paul nous rassure, il nous dit, vous savez, avec tout le reste de l'écriture, hein, il y a d'autres psaumes qui parlent de ça, et d'autres passages prophétiques qui parlent de ça. Vous savez, les idoles sont muettes, elles ne disent rien, et elles n'apportent rien. Vous pouvez épater la galerie. Par leur puissance, vous pouvez épater la galerie. Mais elles sont totalement incapables de combler les besoins de leurs adorateurs. Aucune idole, qu'elle soit primaire ou qu'elle soit sophistiquée, qu'elle soit façonnée de manière grossière en argile, qu'elle soit taillée dans un bout de bois, ou que ce soit un appareil high-tech de dernière génération, aucune de ces idoles ne peut répondre aux questions. Aucune de ces idoles ne peut faire des révélations. Aucune de ces idoles ne peut assurer de la vérité, pardonner les péchés, conférer dignité, donner du sens à la vie ou procurer la paix. Alors, s'il y a un spirituel falsifié, heureusement, il y a un spirituel authentique. Et on le sait, Satan est passé maître dans l'art de contrefaire l'œuvre du Saint-Esprit. Cela n'est pas étonnant, puisque l'Écriture nous révèle que Satan lui-même se déguise en ange de lumière et que ses serviteurs se déguisent en ange de justice. 2 Corinthiens 11-14-15. Il est si fort que finalement il parvient à créer la confusion parmi les croyants de Corinthe, au point que dans l'église de Corinthe, on entend cette déclaration funeste, cette déclaration terrible, Jésus-Christ est maudit. Mais dire que Jésus est maudit, c'est condamner sa nature, c'est condamner son caractère, c'est condamner son œuvre, c'est condamner sa sainteté, c'est condamner sa gloire. Les Corinthiens sont en plein égarant. Ils ne connaissent pas les critères de conduite par l'esprit. Ce ne sont pas des soi-disant manifestations spirituelles qui sont la marque d'une spiritualité authentique. Croire que l'exercice des dons est une preuve de spiritualité, c'est commettre la même erreur que les Corinthiens. Là aussi, certains milieux ont fait des confusions dans ce domaine en prétendant que certains dons étaient le signe certain de la réception du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'exprime non pas pour épater par quelques manifestations spectaculaires, mais avant tout pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais faire deux citations. L'une de Godet, que j'ai déjà cité plus haut, qui dit « Aucune parole dégradant cet homme qui s'est appelé Jésus, aussi éloquente et aussi puissante qu'elle puisse être, n'émane du Saint-Esprit. Par contre, toute parole qui glorifie cet homme Jésus, même faible et de peu d'apparence, cette parole provient de Dieu. » Et une autre citation d'Henri Briand. Une église ou une personne conduite par l'Esprit de Dieu va chercher avant tout à glorifier Jésus-Christ. Tout ce qui dévie de cet objectif, non seulement n'émane pas de Dieu, mais contrarie l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous ce texte de 1 Jean 4, 2, où Jean nous enseigne et nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. » Alors confesser, c'est un mot qui a plusieurs sens. Hein. Dans le sens religieux, ça veut dire proclamer publiquement. Mais dans un sens, un autre sens, c'est celui d'avouer en public. Et par extension, confesser signifie reconnaître pour vrai, souvent à son désavantage. Ainsi, confesser Jésus, c'est reconnaître pour vrai ce que Dieu dit à son sujet. Quand je confesse Jésus, je reconnais que ce que Dieu dit à son sujet est vrai. Confesser ou déclarer que Jésus est Seigneur, en grec, kurios, c'est l'équivalent d'Adonai dans l'Ancien Testament. Adonai qu'on utilisait pour éviter de prononcer le nom de Dieu, Yahvé. Jésus est Seigneur. Ces mots sont interchangeables, Seigneur, Adonai. Confesser que Jésus est Seigneur, c'est la marque d'une parole inspirée par l'Esprit de Dieu. Une telle parole, c'est un cri d'adoration, un hommage, par lequel le personnage historique qui a porté le nom de Jésus se trouve élevé sur le trône divin. On l'a chanté, hein, qu'il règne. Et il est célébré comme celui qui exerce la souveraineté universelle, et cela, malgré l'opprobre et la mort sanglante qu'il a subie. Pour éviter la confusion, qui peut pousser jusqu'à dire ou faire des actions contraires à la logique ou à l'évidence, nous devons nous munir du bon outil d'appréciation ou de mesure. Dans l'Église, le viron n'a pas cours. Vous connaissez cette unité de mesure, le viron? Non? Ça vous dit rien? Alors, c'est un jour, mon chef, il m'a dit, Marc, est-ce que tu connais l'unité de mesure du pifomètre? Alors j'ai dit, non, je sais pas. Il m'a dit, alors j'ai donné quelques réponses, il m'a dit, non, c'est le viron, parce qu'on calcule en viron. On calcule en viron. Donc l'unité de mesure, c'est le viron. Ça n'a pas cours dans l'Église. Pas d'à peu près, pas d'approximation. Dans l'Église n'a pas cours non plus le Canada Dry. Ça, vous connaissez mieux, n'est-ce pas? Vous savez ce qui ressemble, qui sonne comme, mais qui n'est pas. Pas d'à peu près, pas d'imitation dans l'Église. Paul semble donc dire aux Corinthiens, dans votre ancien état de païen, vous ne faisiez aucune expérience analogue à celle que vous faites aujourd'hui dans l'Église. Les idoles muettes au pied desquelles vous vous laissez conduire ne vous communiquaient pas de puissance pareille à celle de l'Esprit de Dieu, celle qu'il vous communique maintenant par son Esprit. Par conséquent, neuf, tout neuf en Jésus-Christ comme vous l'êtes dans ce domaine, vous avez besoin d'un fil conducteur qui vous empêche de vous égarer. Paul veut nous aider à y voir clair. Il veut nous aider à voir ce qui, dans le domaine du spirituel, des manifestations spirituelles, ce qui est de Dieu, ce qui est source de vie. Parce que nous l'avons vu. Ce qui vient de Dieu est source de vie. Ce qui vient de Dieu, glorifie Jésus-Christ. Ce qui vient du malin s'oppose à l'œuvre de Dieu et conduit à la mort. Ainsi, le premier outil que Paul nous donne pour évaluer les manifestations spirituelles, une manifestation spirituelle saine, ce premier outil est doctrinal. Il convient donc de comparer toute parole et toute pratique dans l'Église à ce que révèle la parole qui nous est donnée de Dieu, afin que dans ce domaine, nous ne divaguions pas, nous ne nous égarons pas. La prochaine fois, dans 15 jours, Dieu voulant, nous verrons que c'est la Trinité dans ses trois personnes qui est à l'œuvre dans ce domaine pour manifester la vie et glorifier Dieu. Je vous propose de chanter ensemble: Nous croyons en Dieu le Père. Amen.